I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Moi-ci, mon invité, déjà venu dans l'émission il y a quelques mois pour nous parler notamment des premiers temps du cinéma et d'Alice Guy. Journaliste ciné et série pour OCS, vous la connaissez mieux grâce à YouTube, sous son pseudonyme, la manie du cinéma. Elle, c'est Mélanie Toubeau. Salut Mélanie.
Salut.
Très content de t'avoir avec moi dans Année Lumière pour nous parler encore une fois d'une année pas très récente.
J'adore les vieux.
On adore les vieilles années. La dernière fois, tu étais venu discuter de l'année 1897. Et pour cet épisode, on fait un bond de quelques années et on change de décennie pour aller parler d'un millésime niché au tout début du XXe siècle. Une période où, ça y est, le cinéma arrive à mieux se définir lui-même et à rêver plus grand, plus haut, plus beau, notamment grâce à un homme. Mm-hmm. Au programme, le magicien Georges Méliès et son voyage dans la Lune, la guerre perdue de Thomas Edison, les premiers piratages du cinéma, un couronnement royal, Alibaba, Gulliver et bien d'autres. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1902. Entertainer par Scott Joplin, et oui, il date de 1902, cette ère de ragtime que vous entendez à peu près à chaque scène de saloon de western ou dès qu'il y a un film d'époque, oh, ils le mettent. Non, il date vraiment de 1902, cette ère-là. The Entertainer. Cette année-là, Émile Loubet est le président français, Theodore Roosevelt est son alter ego américain, l'Empire britannique couronne un nouveau roi, Édouard VII, et l'Empire russe est lui gouverné par le tsar Nicolas II, papa de la célèbre Anastasia. La même année, 1902, donc, la Martinique est meurtrie par l'éruption de la montagne Pelée, qui fera 30 000 morts. Les Berlinois inaugurent leur premier métro. Les Espagnols voient la naissance du club de foot du Real de Madrid. Enfin, les passionnés de littérature pleurent la mort d'Émile Zola et se réconfortent en lisant Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, la nouvelle aventure de Sherlock Holmes, qui connaîtra moult adaptations sur petit et grand écran. Le cinéma, justement, en 1902, le public s'est familiarisé avec le cinéma et il a maintenant l'habitude d'aller en salle pour voir les dernières productions Pathé ou Gaumont et les films d'Alice Guy, notamment. Le public ne va plus seulement voir des vues de la vie quotidienne, non, il va voir des films plus ambitieux maintenant et à l'histoire, aux costumes, aux décors et aux effets spéciaux élaborés, comme Alibaba et ses 40 voleurs et Samson et Dalila, côté français, ou Jack et le haricot magique de l'américain Edwin S. Porter. Et à cette période où le cinéma déploie ses ailes, un homme rêve plus beau, plus grand et mieux que les autres. Véritable James Cameron du cinéma muet, il possède son propre studio indépendant et son ultra populaire Voyage dans la Lune vient de frapper l'imaginaire collectif. Cet homme, il est au cœur de cette émission et il s'appelle Georges Méliès.
Le contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Bérouda. Et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » « Pourquoi ?» lui dis-je. « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous est patrin vous-même. » Je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé. Et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire.
Voilà son affaire, voilà son affaire à Georges Méliès, tout à fait, quelle voix, quel son, quand on adore ce son, hein, ce son craquelant et cette voix de vieil homme, puisque c'est un extrait d'un interview de Georges Méliès, donc 1937, juste un an avant sa mort. Georges Méliès qui est donc au cœur de cette émission un petit peu spéciale d'Année Lumière, et Georges Méliès qui est donc un réalisateur des débuts du cinéma, c'est quelqu'un qui, dès les débuts du cinéma, dès 1896 jusqu'à 1913, va réaliser... Georges Méliès, plus de 530 films, grosso modo, donc c'est assez phénoménal. Alors, Georges Méliès, rapidement, c'est qui ? C'est quelqu'un qui est né en 1861. C'est d'abord un prestidigitateur, un homme de spectacle, un magicien, pour dire des grands mots. C'est quelqu'un qui va acheter un théâtre, le théâtre Robert Houdin, en 1888, et qui va découvrir le cinéma fin 1895, tout comme il nous l'a raconté dans l'extrait sonore qu'on a entendu. Il va découvrir ce cinéma tout jeune et va vouloir d'abord effectivement acheter la technologie des Frères Lumière qui vont lui dire non merci, c'est juste un truc scientifique et ça marchera jamais, donc débrouille-toi tout seul. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Georges Méliès, il va acheter sa propre caméra, il va très rapidement faire ses propres films dès 1896 et il va surtout fonder sa société de production, la Star Film. Alors, comment est-ce que toi, tu qualifierais le cinéma de Georges Méliès, Mélanie ? Qu'est-ce qu'il a de si différent en 1896 dans ses premières années de cinéma ?
La perfection.
On voit qu'on a une fan de Georges
Méliès. Ah oui, c'est vraiment du fanatisme total. Non, en fait, Georges Méliès, comme tu l'as dit, à l'origine, c'était un prestidigitateur. Et en fait, lui, ce qu'il aime, c'est faire rêver les gens. Vraiment, c'est mettre des étoiles dans les yeux, c'est créer des trucs. C'est plus que raconter des histoires, quoi. C'est épater. Mmh. Vraiment, il le dit effectivement dans le son qu'on l'a entendu, c'est vous qui aimez épater les gens. Et donc, il va en fait créer un genre qui existait donc, déjà au théâtre et dans le monde de la magie, c'est ce qu'on appelle la féerie. Mmh. La féerie, c'est des histoires de fées, des histoires de monstres. C'est parfois assez glauque, c'est beaucoup sur le diable, la mort aussi. En fait, c'est de la magie, mais à l'écran.
C'est merveilleux, c'est fantastique.
Exactement. Ouais. Il a créé en fait ce qu'on appelle maintenant le cinéma fantastique. Mmh. Alors bien sûr, ses premiers films, c'était pas ça. Ses premiers films, à l'époque, de toute façon, quand on faisait des films, on refaisait ce qui avait déjà été fait. Son tout premier film, donc en avril 1896, c'est une partie de cartes, comme l'ont déjà fait les Frères Lumière. Sauf que bon, filmer des gens qui jouent aux cartes, c'est pas très rigolo, quoi. C'est bien pour tester la machine. Mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment faire comme pendant ses spectacles de magie, c'est que les gens, à la fin, sont là, mais comment il a fait ? C'est complètement fou.
Déjà, Georges Méliès, dès ses premiers films, il va se dire, je vais me distancer de la vue documentaire, on va dire, des vues lumières qui nous montraient juste la vie comme un documentaire, genre juste, voilà, le train qui arrive, la chute du Niagara, etc., etc. Et lui, Georges Méliès, il dit, bah non, je vais faire des tours de magie, de l'escamotage.
Exactement, chose, justement.
Je vais raconter une histoire un peu plus
Et ça commence en 96, où justement, il va filmer un tour de magie, mais avec un truc dedans, un truc de caméra, de cinéma. Donc, c'est l'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, qui est... Donc, l'escamotage, c'est le fait de faire disparaître. Le film, c'est lui-même jouer, parce que voilà, il est réalisateur, mais il était aussi acteur, il était auteur, il filmait, il faisait les décors, il faisait absolument tout. Et en fait... Donc dans cette vue, dans ce film de l'escamotage d'une dame, c'est en fait, il fait entrer sur scène, entre guillemets, une femme qu'il met sur une chaise, il met un drap devant, il fait disparaître cette dame justement en cutant l'image. Et sur l'image d'après, la femme en fait était partie derrière le drap et donc il n'y a plus personne.
Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, le montage d'un film n'existe pas. Enfin, on filmait, on tournait l'appareil, on filmait ce qu'il y avait devant nous et puis c'était terminé. Et là, lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que il filme une personne qui est sous un drap, coupe, la personne sort de l'image, il relance la manivelle en derrière de la caméra, et du coup, ça, à l'image, ça fait un cut véritablement.
C'est ça. Alors, on dit que c'est lui qui a inventé le montage. En vrai, ça a déjà été fait par Edison aux États-Unis avant. Il semblerait qu'il en avait entendu parler ou qu'il l'avait déjà vu. Mais en France, effectivement, c'est lui qui a fait rentrer en fait le cinéma monté.
D'effets spéciaux,
véritablement. On appelle ça des effets spéciaux parce qu'effectivement,
des effets, quoi.
Là, ça fait le fait qu'il y ait un cut. En fait, c'est pas juste pour raccorder deux scènes, c'est pour faire disparaître quelqu'un. Oui. Donc c'était un effet spécial de faire disparaître.
Ce qu'il faisait dans son théâtre Robert Houdin, tour de magie de son théâtre, il va l'appliquer au cinéma. Il va dire, le cinéma va être un outil qui va me permettre de faire mon art de l'escamotage. Donc toi, tu te dirais, c'est un cinéma magique.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle, en fait, Georges Méliès, le magicien du cinéma.
Ouais.
Que toutes ses biographies s'appellent comme ça. Parce que même lui, en fait, se désignait comme étant le magicien du cinéma parce qu'il avait allié la magie avec la prise de vue. C'est lui qui a vraiment déterminé en fait cette création de la fantaisie et de la magie dans le cinéma, ouais. Donc du cut et de l'effet spécial.
Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte, effectivement, bah, Georges Méliès n'est pas tout seul à cette époque-là. Hein. Le cinéma n'est pas créé par juste deux personnes et puis il n'y a plus rien d'autre. Il y a plein de gens qui créent le cinéma un petit peu au même moment, plein de gens qui font des expérimentations. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... forcément de date arrêtée de naissance du cinéma ou de date arrêtée de l'effet spécial ou de date arrêtée de plein de choses comme ça.
Une seule personne qui a fait, c'est
voilà.
Vraiment...
C'est plein de gens, mais du coup, Méliès va tirer ça vers un art, et va créer du coup d'assez unique et d'assez personnel qui va être un peu le seul à maîtriser, être l'un des premiers à maîtriser cette art des effets spéciaux puisqu'il va, on a parlé de l'arrêt de caméra, donc il va jouer avec les cuts, il va jouer avec les disparitions, les fondus aussi, les fondus enchaînés.
Les fondus.
Les collages.
Exactement, les collages, ça, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il avait compris qu'on pouvait superposer, en fait, les pellicules. Ah, c'était un manuel, c'était un artiste, c'est vraiment, en fait, il a pensé à tout ce qui était possible à faire et il a tout tenté. Ouais, ouais. Parce que lui, il avait créé des trucs, il avait son studio, le fameux studio de Montreuil, où, qui était le premier studio,
studio
de cinéma.
Studio de la Starfilm, oui.
Voilà, le studio de la Starfilm, où en fait, il avait une scène où il y avait des poulies de partout, le sol, on pouvait rentrer dedans. Enfin, c'était
un studio tout en glace, tout en verre, pour laisser rentrer la
Exactement.
Lumière du soleil.
C'est ça, il y avait les deux studios, Studio A, Studio B, et c'est, en fait, c'est vraiment le premier à avoir fait, en fait du cinéma un art à part entière, et surtout à vouloir raconter des histoires. Alors, on a parlé dans notre précédente émission d'Alice Guy, qui, elle, raconte également des histoires, mais lui, il voulait faire rêver les gens. Il voulait vraiment les amener avec lui dans une histoire fantastique, que les gens se posent quand même des questions de mais comment il a fait exactement de la même manière qu'après un spectacle de magie.
Ce qui en fait une sorte d'anomalie, entre guillemets, c'est que, contrairement à tous les autres qui, effectivement, font peut-être aussi autant de découvertes, autant d'innovations, autant d'essais de leur côté, lui, il a un univers bien à lui, qu'il est vraiment le seul à avoir. Quoi. À l'époque, effectivement, tout le monde peut tester des choses, faire des expériences avec les collages, les fondus, tout ça, mais lui, l'univers de Georges Méliès, à l'époque, il est le seul à le faire, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est si important et pourquoi on en parle. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on parle des premières fois, mais il a été notamment le premier à faire des storyboards pour ses films, donc à préparer ses plans de cinéma et ses images, donc à fonctionner vraiment en visuel. Qu'est-ce que les gens vont voir, effectivement, à l'image, je vais faire des storyboards pour préparer mes films. Ça a été le premier à faire ça.
C'est parce qu'en fait, avant le cinéma, avant même la magie, ou même en parallèle de la magie, c'est en fait, il était illustrateur, il faisait des caricatures. Il était caricaturiste pour un magazine anti-boulangiste.
Contre les boulangers ?
Oui. Enfin, les boulangistes boulangers en politique.
Ah oui, l'électroménager. Non, pas du tout. Non. Comment ? Non, très bien. Oui,
et donc, effectivement, en fait, il était caricaturiste. Bon, son papa voulait pas trop et tout, mais
tu m'étonnes.
Il vient quand même, Georges Méliès, c'est l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Le gars, à l'origine, il devait vendre des chaussures, enfin, fabriquer des chaussures. Voilà, c'était la famille Méliès fabriquait des très belles chaussures. Mais lui, il s'est dit non, moi, je veux faire du dessin, je veux faire de la magie. Après, je veux faire des films. Donc, tous les sous des chaussures, eh ben, je le mets pour pouvoir faire mes trucs à moi. Et au final, il a beaucoup financé ses films pendant des années avec l'argent des chaussures. Il y croyait dans le fait de faire rêver les gens.
Et donc, on est en 1902, donc l'année qui nous intéresse. Où en est la carrière de Georges Méliès en 1902 qui est Georges Méliès en 1902 c'est déjà une superstar et
C'est carrément une superstar.
C'est déjà une superstar en 1902.
Oui,
bah c'est... Il a fait quoi, 300 films hein, déjà?
Je sais pas le nombre exact, mais en tout cas, il en a fait beaucoup. Parce que, bon, après, sa carrière s'est quand même étalée jusqu'en 1913.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il en a fait quand même pas mal. Il a fait des films assez connus pour l'époque.
Et en plus, il fait des films de tout genre.
Oui,
différents.
Bah oui, justement, il a fait l'affaire Dreyfus, justement, parce que à l'époque, il n'y avait pas les télés. Donc, on ne savait pas
un
ce qui se passait. Et donc,
Dreyfus.
Il a refait en fait un film sur l'affaire Dreyfus, justement, pour un peu...
Au moment de l'affaire Dreyfus, véritablement.
Oui, voilà, c'est ça, pour en fait faire de la fausse actualité. En fait, c'est l'actualité, mais mise en scène.
Ah, donc, un film politique déjà à l'époque.
Bah, il était quand même très politisé, justement. Mais c'est vrai qu'en 1902... Ouais, c'est une superstar, le gars. Les films Méliès sont adorés, surtout dans des endroits comme dans des foires, dans des fêtes foraines. On veut voir du divertissement. Les films Méliès, c'est du divertissement à
100%. C'est de l'aventure, c'est de l'émerveillement, c'est de la féerie.
Le cinéma de Georges Méliès, c'est du Spielberg, en fait. C'est pour les petits, c'est pour les grands. Il y a des choses parfois assez dures, quand même, parce qu'il évoque pas mal la mort.
Oui, le diable, la mort.
Voilà, le diable. Justement, c'est pour tout le monde. C'est là pour divertir.
C'est réalisateur mainstream, quoi. Ah bah, super.
Ouais, de ouf, mais
et
c'est beau.
Et du coup, pour mettre un peu de contexte pour nos auditeurs, rappelons qu'en 1902, le cinéma, c'est surtout quatre grosses sociétés. On a la Edison Company de Thomas Edison, américain, la Starfilm de Georges Méliès, on a parlé effectivement, on a Pathé Film de Charles Pathé et Gaumont de Léo Gaumont. Donc c'est surtout ces quatre grosses sociétés-là qui trustent, on va dire, le panorama du cinéma mondial. On a trois sociétés et un indépendant qui est Starfilm, Georges Méliès, qui est du coup le seul indépendant du groupe, du coup, et qui est celui qui marche le mieux en 1902. Et en 1902, Georges Méliès est la superstar, aussi et surtout, déjà parce qu'il a un catalogue phénoménal de films merveilleux, mais aussi surtout parce que sort son film le plus important, qui est Voyage dans la Lune, dont vous avez forcément entendu parler.
Déjà vu la Lune qui se prend l'obus dans la tronche, dans l'œil, enfin... C'est mythique,
c'est
maintenant.
C'est mythique, c'est rentré dans la culture pop, dans l'imaginaire collectif. Ce film, qui dure environ 14 minutes, raconte l'aventure du professeur Barbanfouilly et de six autres savants qui partent à la découverte de la Lune. Rappelons que la Lune, hein, à l'époque, évidemment, on n'est pas encore arrivé sur la Lune, bien sûr, et donc est encore un astre bien, bien mystérieux. Et le Voyage dans la Lune, si vous ne l'avez pas vu déjà, ce qui est cool, c'est que vous pouvez aller le voir assez facilement puisqu'il est sur YouTube, comme tu l'as dit, en 27 000 versions assez
accessibles. C'est ça, on a du coloré, du colorisé, pardon, on a du noir et blanc, on a différentes instrus. Il est trouvable aussi sur Arte gratuitement. Enfin, ouais. C'est, pour le coup, il est rentré dans le domaine public et...
Et c'est une beauté.
C'est une beauté.
Il y a des décors fous, il y a des costumes magnifiques, il y a des effets spéciaux, il y a des trucs assez fous et c'est un énorme succès européen et c'est un succès mondial parce que c'est un énorme succès également aux États-Unis avec ce cinéma qui arrive sur le continent américain. C'est un succès mondial dans le monde entier et c'est le premier film de science-fiction en tant que tel, 65 ans avant 2001 Odyssée de l'espace, 75 ans avant Star Wars. Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, c'est le premier film de science-fiction. Pourquoi Le Voyage dans la Lune est-il un si grand succès en 1902?
En fait, il y a Charles Pathé qui a dit une phrase que je trouve géniale, justement par rapport au Voyage dans la Lune. C'est dit que c'est la première scène véritablement intéressante qui lui était donnée au cinématographe. Donc déjà, quand Charles Pathé dit ça, tu dis « Ok, c'est bon. »
Avant le cinéma, c'était pas intéressant,
voilà,
mais là,
c'est ça.
Voilà, je me suis vraiment...
Et en fait, déjà, c'est inspiré de quoi? Le Voyage dans la Lune, oui. C'est inspiré de La Terre à la Lune de Jules Verne, qui est un best-seller. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme best-seller pour l'époque, mais en tout cas, c'est super connu. Jules Verne, on aime énormément. Ça permet justement, comme tu dis, la Lune, ça reste quelque chose d'inconnu. On se dit, mais comment, à quoi ça peut ressembler? Il a créé un imaginaire autour de la Lune, le fait que ça soit habité... surtout par les Sélénites, qui sont ces sortes de crabes un peu bizarres.
Ce peuple de la Lune voilà. Qui rencontre Barbanfouilly et ses collègues
et
savants.
Et qui sautent un petit peu comme des singes, mais des crabes en même temps. Enfin, ils sont très bizarres.
Très
et
chelou.
En fait, il faut quand même se remettre dans la situation de l'époque. On est en 1902. La seule chose qu'on a comme rapport à la Lune, c'est effectivement ce roman de Jules Verne et quelques romans qui ont pu sortir, mais... On ne sait pas grand-chose là-dessus.
Visuellement, il n'y a pas de référence, vraiment. Il y a des croquis, des choses comme ça, mais il n'y a pas de...
C'est la toute première référence visuelle, en fait, à la Lune.
Ouais.
On peut enfin voir à quoi ça ressemble. Il faut se dire que beaucoup de gens, à l'époque, pensaient aussi que le cinéma, c'était vrai.
Ouais.
Donc, effectivement, quand ils se font raconter ce genre d'histoire, ils ont pu se dire...
Ils sont vraiment allés filmer sur la Lune.
Exactement. Ce qui est juste fou. Donc, effectivement, dans le contexte de l'époque... C'est un film qui a très bien marché, sachant quand même qu'il a été montré en avant-première à la Foire du Trône. Imagine cette ambiance de foire, et là, tout d'un coup, on dit « Les hommes ont marché sur la Lune et ils se sont battus contre des crabes géants !» Non, mais c'est génial, en fait.
C'est phénoménal de découvrir ça à la Foire du Trône en 1902.
Suite à ça, 500 copies qui sont vendues pour un prix exorbitant pour l'époque. Il y en a qui sont colorisées, donc il y avait des personnes qui, avec des petits pinceaux,
main,
des pochoirs, qui faisaient à la main chaque image les unes après les autres. Sachant qu'aussi, c'est un spectacle, quand on va au cinéma à l'époque, on n'y va pas... juste comme ça, et on nous montre le film, et c'est tout. Non, il y a un accompagnement, il y a de la musique, soit un orchestre, soit quelqu'un seulement au piano, et il y a aussi le bonimenteur. Le bonimenteur, c'est celui qui raconte l'histoire en même temps qu'elle est en train de passer à l'écran. Et pour Le Voyage dans la Lune, il y avait un bonimenteur. Et forcément, quand on te dit « Oh, et là, ça y est, c'est les premiers pas de l'homme sur la Lune », c'est, tu te dis, en 1902, j'ai entendu ça, quoi. C'est fou.
C'est un spectacle, c'est un spectacle à part entière, véritablement.
Mais on a l'impression d'avoir révolutionné le monde, je pense.
Ouais. Et puis c'est vrai qu'on est encore, même si en 1902, le cinéma a déjà quelques années derrière lui, il y a déjà
c'est le début,
quelques films
malgré
pas mal.
Tout, hein.
C'est encore le début et on est encore dans pas mal de... On a encore ces films Lumière, on a encore ces des choses très théâtrales, donc des choses assez simples véritablement. Et Le Voyage dans la Lune est quelque chose de très très ambitieux. Alors je sais pas quel est le budget du film, mais c'est quelque chose qui a dû quand même coûtait quand même pas mal, parce qu'il y a une, vraie mise en scène, il y a un vrai univers, il y a un vrai spectacle à chaque, tableau véritablement. C'est un univers hors norme, unique, une expérience déjà pour l'époque, qui du coup a fait un succès international. Comme je te dis, les chers auditeurs, vous avez sans doute déjà vu effectivement cette image de la lune qui se prend un obus dans l'œil. C'est encore une image qu'on a vue en 2010 dans Les Simpsons. C'est-à-dire que Les Simpsons, 100 ans après, ont repris Georges Méliès
dans
et Itchy et Scratchy.
Il est génial.
Ont repris le voyage dans la lune dans un sketch de Itchy et Scratchy dans Les Simpsons. Donc c'est
Mais
assez
oui.
phénoménal.
C'est, en fait, c'est vraiment un des tout premiers films qui a marqué le cinéma. Ouais. Et moi, je le vois avec les yeux de l'amour, hein,
ouais,
parce
bien sûr,
que vraiment, j'adore ce film. Surtout, en plus, il y a eu y a une restauration du film, donc celle que vous pouvez trouver sur YouTube.
Avec la musique de R, du
Oui, voilà, R. c'est ça. Même encore maintenant, 125 ans plus tard. Mais de voir ça, c'est quand même encore un vrai délice pour les yeux, quoi. Mmh. C'est une vraie merveille.
Et tu l'as dit, c'est l'un des... C'est le premier grand film de l'histoire du cinéma, tout simplement.
Bah, à l'époque, justement, c'est Méliès, il n'était pas très fan. Enfin, si, c'était pas son film préféré.
Ouais.
Il l'aimait, mais c'était pas son film préféré. Mais en tout cas, c'est celui qui a le mieux marché, ça, c'est sûr. Et surtout, en fait, il utilisait un terme que je connaissais pas et que je trouve assez drôle. À la place de dire blockbuster, eux, ils appelaient ça des hyperfilms. Et je trouve vraiment, ça me fait penser aux hyperboles dans Pokémon.
Ouais, ouais.
Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est l'hyperfilm, c'est le film qui a le mieux marché.
Il marche hyper bien.
Voilà, c'est ça, il marche hyper bien et je trouve ça assez drôle comme terme.
Pour terminer sur effectivement la réception du Voyage dans la Lune à l'époque en 1902, je reprends une citation de Georges Sadoul, qui est un historien du cinéma, qui disait que le succès du Voyage dans la Lune marqua le triomphe de la mise en scène sur ce qu'on appelait le plein air lumiérien, c'est-à-dire le plein air, ces films documentaires des frères Lumière. Donc t'as vraiment, le Voyage dans la Lune, il y a un avant et un après le Voyage dans la Lune, et le Voyage dans la Lune marque ça, ce côté, ok, maintenant le cinéma, c'est de la mise en scène surtout. Et c'est vrai que dans les années qui vont suivre, le cinéma va se concentrer sur faire des films de mise en scène avec des tableaux, avec des costumes, des décors, etc. etc., etc. Donc Méliès est, pour filer la métaphore sur James Cameron, le roi du monde en 1902, The King of the World.
De ouf.
Et il va continuer comme ça à faire des films jusqu'en 1912-1913. On l'a dit, plus de 500 films. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit le roi du monde en 1902, le cinéma de Méliès va tomber dans l'oubli et va même failli disparaître. Puisque Méliès a donc réalisé son dernier film en 1913, donc à peine 10 ans plus tard. Hein, le film va s'appeler Le Voyage de la famille Bourrichon, qui est son dernier film en 1913. Et en 1923, Méliès va être ruiné et va même devenir vendeur de jouets modeste dans la gare Montparnasse et va être oublié pendant presque 20 ans. Comment quelqu'un comme Georges Méliès a-t-il pu être oublié comme ça ?
Bah, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, il y avait 4 grands studios.
Gaumont,
Pathé,
Edison,
et c'était des grosses firmes. Et puis il y avait le petit indépendant Méliès, ce qui veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de sécurité. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il a tout pris sur ses propres économies. Donc en fait, c'est la rentabilité, c'était pas trop là. Et malheureusement, 1913, qu'est-ce qui se passe l'année d'après ? 1914, on a le début de la guerre.
Première guerre mondiale.
Guerre mondiale. Et en fait, à ce moment-là, Méliès, ça va plus du tout. Il a plus aucune économie. Et en fait, un soir, dans un mouvement de folie, il décide de brûler tous ses films, donc tous ses négatifs de tous ses films. Il fait un grand feu de joie devant son studio à Montreuil. Et le peu qui lui est resté pendant la guerre, en fait, la matière justement des pellicules, a été récupérée en fait pour faire des talons de souliers de soldats pour la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, vraiment, il s'est retrouvé sans rien. Bah, c'est ce qu'on a pu dire dans le précédent épisode qu'on avait fait ensemble sur Alice Guy, c'est que quand on arrête de voir les films des gens, bah en fait, on les oublie.
Les gens disparaissent.
Et
ouais.
lui, en fait, bah ses films ont disparu pendant très longtemps.
Et lui avec.
Voilà.
Dans la mémoire
Gain
des gens. Heureux,
mais là, actuellement, effectivement, en fait, ça a fait qu'il a disparu des mémoires vu qu'il n'y avait plus rien à voir de ses films.
Et j'ai appris, par exemple, que pendant la Première Guerre mondiale, donc, effectivement, en 1913, c'est le dernier film de Méliès, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive et la star film fait surtout des comédies ou des films d'aventure, des choses comme
oui,
ça.
On a
et
pas
en Première Guerre mondiale,
ça, ouais.
J'ai appris qu'il était interdit de produire des comédies pour la Première Guerre mondiale.
Ah, je savais pas ça.
Et du coup, la star film qui fait
son
business,
son
gagne-pain sur des comédies, du coup, se retrouve effectivement bien embêté. Et du coup, ce qui explique que Méliès, comme tu le racontais, était ruiné et du coup est devenu vendeur de jouets à la gare Montparnasse. Son cinéma tombe un peu dans l'oubli jusqu'à ce que le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Ciné-Journal, Léon Druot, retrouve sa trace, donc retrouve la trace de Georges Méliès, qui est un vieux monsieur du coup maintenant, Il est donc dans une boutique de jouets à la gare Montparnasse.
En plein courant d'air, le pauvre.
En plein courant d'air. Et il va aider à remettre la carrière et le cinéma de Méliès à la lumière dans ces dernières années.
Il avait plus de 70 ans. Il ne pouvait plus faire de films à cette époque-là.
On est dans les années 30, là.
On est dans les années 30. Il a été mis, en fait, dans une sorte de maison de repos pour anciens du cinéma, justement, pour lui permettre d'avoir une jolie retraite douce. Il a reçu un hommage de Louis Lumière lui-même. Il a reçu une médaille pour son travail. Et surtout, en fait, il a pu finir sa vie tranquillement. Et avec l'espoir, et ça c'est beau, que des gens commençaient à rechercher ses films pour pouvoir essayer de retrouver son patrimoine. C'est une de ces personnes qui est une personne très importante dans l'histoire du cinéma et dont on parle très peu, mais qui a vraiment aidé à ce qu'on connaisse maintenant l'histoire du cinéma. C'est Henri Langlois, qui est le créateur de la Cinémathèque française et qui a commencé à faire un gros travail pour retrouver en fait les films de Méliès, lui avec la Cinémathèque française. Et ça a commencé à venir petit à petit. En fait, ça a été retrouvé dans des archives de vieux cinéma, chez des particuliers, tout ça.
Le Voyage dans la Lune, ça a été, je crois que la copie qu'on a actuellement, ça a été retrouvée à Buenos Aires, je crois.
En fait, c'est plusieurs parties qui ont été retrouvées. C'est les 400 farces du diable. Je crois qu'il y a des morceaux qui venaient du monde entier. Enfin, c'est impressionnant. Et surtout, en fait, une chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à sauver Méliès, c'est le fait qu'en 1903, Georges Méliès a envoyé son frère Gaston aux États-Unis pour ouvrir en fait une succursale de la Star Film et pour développer le marché aux États-Unis. Il s'est rendu compte, en fait, en arrivant aux États-Unis, que beaucoup de films de Méliès étaient piratés,
copiés.
Voilà, et donc, en fait, avec Georges, ils ont décidé de vraiment... noter bien le nom de Méliès sur les pellicules pour que ça soit gardé. Et c'est comme ça, en fait, que maintenant, on a pu retrouver des films de Méliès qui sont, en fait, à la Library of Congress depuis des dizaines d'années.
Même s'il a brûlé tous ses films en 1923,
en fait, il y avait des copies négatives.
Ont survécu grâce à ces copies qui ont été faites pour le marché américain, véritablement.
C'est ça. Donc, au final, son travail, une partie de son travail a été perdue pendant très longtemps. Mais là, petit à petit, ça
y est, véritablement,
on commence enfin à le retrouver dans des états, en plus, plutôt pas mal.
Ouais.
Ce qui permet, en fait, une vraie restauration des films et de pouvoir, en fait, les revoir.
C'est ça, parce qu'il y a des gens, effectivement, dans les années 30-40, qui sont allés, effectivement... rechercher ces films-là, rechercher ces premiers créateurs
c'est
du cinéma comme Georges Méliès. Que Georges Méliès, qui est mort en 1938, donc, a eu une bonne fin de vie, véritablement.
Oui.
Après 15-20 ans d'oubli, il a eu, du coup, dans les années 30, un regain d'amour pour son cinéma, pour ses films, et du coup, grâce à ses passionnés de cinéma, qui ont remis, du coup, son cinéma sous les feux de la rampe, véritablement. Sachant qu'il faut rappeler que là, on parle de tous ces films qui sont retrouvés année après année dans des greniers aux États-Unis, en France, partout dans le monde, qui permettent, du coup, comme ça, de recoller des bouts d'une histoire du cinéma détruite par le temps. Il faut savoir que plus de 80% du cinéma muet a disparu, a été détruit, simplement.
Avec le temps,
parce qu'à l'époque, on ne gardait pas forcément les films.
Ça.
Donc, il faut savoir que 80% de cette mémoire du cinéma de muet, en tout cas, n'existe plus. Donc, c'est important d'avoir ces gens-là qui retrouvent ces films-là. Pour conclure ce gros thème sur Georges Méliès, est-ce que tu as des films préférés de Georges Méliès ? On a dit qu'il a réalisé plus de 500 films. Est-ce que tu as des petites recommandations pour mieux connaître Georges Méliès ? Est-ce que tu as des films préférés de Georges Méliès à recommander, toi particulièrement ?
En vrai, son tout premier film, Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, est aussi assez intéressant à voir. Mais sinon, moi, il y en a un vraiment qui me fait beaucoup, beaucoup rire, qui s'appelle Le déshabillage impossible, qu'il a fait en 1900. Et en fait, c'est donc Georges Méliès qui rentre dans sa chambre et qui commence à se déshabiller à la fin de sa journée de travail ou que sais-je.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois qu'il enlève un vêtement, il en a un nouveau qui arrive. Et en fait, c'est ça pendant, je sais plus, 4 ou 5 minutes. Et en fait, il enlève, il met un chapeau. Finalement, son chapeau lui arrive sur le pied. il enlève une botte, finalement. Il a un cardigan qui se rajoute. Et en fait, c'est une accumulation et on le voit s'énerver de plus en plus, de plus en plus. Et je trouve ça juste tellement drôle. Vraiment. C'est...
Donc, Le déshabillage impossible, c'est 1900.
Ça. Et en fait, il y a plein de petites scénettes comme ça où il en rajoute. On se dit non, mais ça s'arrêtera jamais. Et sinon, le Raid de Monte Carlo, qui est en fait un voyage en voiture un peu à travers le monde. Et il leur arrive que des merdes tout du long. Et en fait, c'est vraiment très, très drôle. Il tombe, il vole à un moment. Il y a vraiment ce truc très dessin animé de, à un moment, ils doivent passer à travers des montagnes et on voit vraiment les montagnes en triangle.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, ils passent dessus, mais comme un dessin animé, voilà, ils se font dans
le sommet des montagnes. C'est un road trip un peu fou.
C'est juste drôle. C'est toujours très astucieux. Et franchement, moi, j'aime bien regarder ces films maintenant en essayant de comprendre comment il a fait.
À l'époque. Parce que vraiment, tout ça fait à Montreuil dans un studio, quoi.
Sans logiciel de montage,
voilà.
Tout ça, c'est que à la force de la main. De toute façon.
Il faut rappeler qu'effectivement, toute l'œuvre de Georges Méliès est rentrée dans le domaine public en 2009, donc est accessible gratuitement sur Internet ou partout ailleurs. Moi, j'irai de ma petite recommandation pour conclure sur ce thème Georges Méliès. Si vous avez aimé Le Voyage dans la Lune, je vous conseille de regarder À la conquête du pôle, film de 1912, avant-dernier film de Georges Méliès, qui est 10 ans plus tard un film dans le même esprit magique que Le Voyage dans la Lune, avec des effets spéciaux et un univers toujours aussi fou, où c'est des explorateurs qui vont du coup partir à la conquête du pôle Nord et qui vont du coup découvrir dans ce pôle Nord, qui est encore une fois à l'époque un territoire inconnu et mystérieux, ils vont y découvrir le géant des glaces, le géant du pôle Nord, et ils vont devoir l'affronter. Donc c'est dans le même esprit que Le Voyage dans la Lune, et c'est assez fun à regarder, c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est ma petite recommandation. Et puis bien sûr, si vous voulez découvrir Georges Méliès et un peu avoir une autre vision de tout ce qu'on a raconté pendant ce thème-là avec Mélanie, on peut aussi conseiller tout simplement le film Hugo de Martin Scorsese,
oui, Hugo Cabret.
Qui est du coup effectivement Hugo Cabret, sorti en 2011, qui est un film adapté d'un livre qui parle également de Georges Méliès, notamment à la fin de sa vie quand il était à la gare Montparnasse.
C'est ça, tous les faits retranscrits sur Georges Méliès dedans ne sont pas justes, mais ça reste l'ambiance. Et puis Ben Kingsley fait un excellent Méliès, il lui ressemble très pour très, c'est assez flippant.
Et c'est
même,
fou de voir Georges Méliès au cœur d'un blockbuster qui a coûté 200 millions dollars. Quoi.
Et puis surtout, en fait, c'est un hommage aussi de Scorsese, qui est un grand fan de Georges Méliès. C'est vraiment un hommage fait, c'est une lettre d'amour au cinéma, en fait, vraiment, ce film.
Et c'est vrai que c'est un film qui, il y a 10 ans, qui a mis beaucoup de projecteurs sur Méliès et sur ses films du premier temps. Voilà qui conclut formidablement notre gros thème central sur Georges Méliès, sur cette année 1902. Vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière. Et on va glisser sans plus attendre vers notre second thème, un petit thème sur un panorama de cette année 1902 de cinéma. Voilà, on ne pouvait pas forcément vous laisser sans parler du reste du cinéma ou de l'actualité du cinéma dans cette année 1902. On a parlé de Georges Méliès, bien sûr, c'était un peu le cœur de notre épisode. En 1902, il se passe quelque chose d'assez important pour l'industrie du cinéma en général, puisque Thomas Edison, qui est l'un des papas des premiers temps du cinéma, va perdre le brevet de la pellicule 35 mm. Alors, c'est peut-être pas important comme ça quand on le cite, mais il faut rappeler que à l'époque, quand le cinéma des premiers temps naît, les films sont enregistrés sur plein de formats différents, 16 mm, 40 mm, 68 mm, etc., etc. Et Thomas Edison, qui est un industriel vorace, va se fixer sur le 35 mm avec sa machine et va mettre des brevets dessus pour empêcher les autres réalisateurs et les autres techniciens d'utiliser sa pellicule. Et du coup, il faut imaginer que le cinéma, dans ses premières années de cinéma, est très chaotique. Tous les films sortent pas dans le même format et du coup ils peuvent pas tous être projetés au même endroit dans le monde, donc on va dire que la production de films aux États-Unis notamment est assez inégale, assez chaotique, là où en France, en Europe, tout le monde se fixe un peu sur 35 mm sans brevet et avec une certaine liberté. Et donc en 1902, l'État américain dit à Edison, non, mais tes histoires de monopole sur la pellicule 35 mm, ça n'a plus lieu d'être véritablement. Et du coup, on va casser ton monopole et on va permettre à tout le monde d'utiliser la pellicule 35 mm. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1902, que le cinéma va pouvoir retrouver une sorte d'homogénéité. Et du coup, que la production cinématographique va pouvoir prendre un peu son essor et va pouvoir du coup devenir vraiment une industrie qui fonctionne, qui roule et qui n'est pas bloquée année après année par des gens qui mettent des brevets, des gens qui font des technologies comme Thomas Edison. Et du coup, ça permet du coup au format 35 mm de devenir un format de référence. Et d'ailleurs, il va devenir le format de référence du cinéma aux États-Unis et dans le monde à partir de 1909. Voilà, 1902, c'est cette année importante avec du coup, comme je le disais, ce format 35 mm qui arrive enfin dans les mains de tout le monde, sans entrave. Toi, est-ce que tu avais... Mélanie a un petit quelque chose à nous dire sur cette année 1902 de cinéma en plus de Georges Méliès. Tu voulais nous parler, je sais, d'un sujet un peu complémentaire à Méliès d'ailleurs.
Le plagiat, la piraterie, piratage.
Et oui, parce qu'effectivement,
contrefaçon
en 1902, c'est aussi une grosse année où le cinéma, il commence du coup à être piraté. Et en 1902, il y a ce premier piratage de films.
C'est que les films de Méliès, ils étaient donc envoyés aux États-Unis. mais on n'allait pas dire que c'était lui quand même, on allait dire que c'est du produit américain. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh ben, on grattait le nom de Méliès ou alors la Starfilm. En fait, il y avait le logo de la Starfilm, donc qui était une étoile, c'est dans le nom, jusque-là ça va, qui était en fait agrémenté, enfin qui était mis sur les décors, justement pour faire une watermark.
Ouais. Sauf copyright.
Voilà, sauf que bah, les Américains se sont dit oh, on va enlever ça. Et en fait, ça, ils le grattaient sur le film. Au pire, ça faisait des trous, mais c'est pas très grave. Ouais. Au moins, on sait que c'était pas du vol.
Donc les gens récupéraient les films de Méliès aux États-Unis et faisaient des copies de leur côté pour pas payer les droits à Méliès directement. Quoi.
Et donc, ça, il y en a eu beaucoup de ces films à Méliès.
Dès 1902, quoi.
Même un petit peu avant. Hein. Voilà. Et justement, Gaston, donc le frère de Méliès, c'était à lui un petit peu de gérer ça un petit peu, parce que c'était vraiment chaotique à l'époque. Donc, ils ont commencé à mettre des choses en place, sauf que bah, les Américains, ils s'en foutaient un petit peu et ils continuaient de faire ça en soum-soum. Et on a aussi eu la contrefaçon 2000 par des gens, en fait, qui copiaient tout simplement les films qui avaient déjà été faits.
Plan par plan.
Voilà, je vous disais que effectivement Méliès, son premier film, c'est une partie de cartes qui est une reprise du premier film, enfin d'un des premiers films des Frères Lumière, mais pareil dans le placement exactement.
Ouais.
Bah ça, en fait, ça a continué de se faire où des studios reprenaient des films. Donc effectivement, Méliès s'est fait en fait copier ses films plan par plan.
Notamment parce qu'il y a un film en 1908 qui s'appelle L'Excursion dans la Lune de Segundo de Chomón, qui est un réalisateur de la Pâté, des films Pâté, qui s'appelle L'Excursion dans la Lune 1908, qui est le reprise plan pour plan.
Ah oui, il n'est pas allé chercher très loin. Hein.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'est soit on faisait des copies pour ne pas payer les bobines, soit, comme tu le disais, on refait des films plan par plan. Quoi.
C'est ça, c'est vraiment en fait. C'est un manque d'imagination, j'imagine. Et surtout, en fait, on copie ce qui marche. Donc forcément, on sait que ça va marcher si on fait la même chose. Et le public, ça, il le sait pas que c'est différent.
C'est déjà des remakes, en fait. C'est déjà des premiers remakes. Finalement.
Oui, mais est-ce qu'on peut parler de remake quand c'est pour profiter du succès d'un autre film ? Moi, j'appelle vraiment ça plus du piratage, quoi. Enfin, de la contrefaçon.
Mais c'est vrai que genre, je sais que Pathé, donc le studio Pathé, c'était spécialisé comme ça dans les remakes. Comme ils n'avaient pas Alice Guy chez Gaumont ou Georges Méliès chez Starfilm, eux ils avaient que Ferdinand Zeka ou Segundo de Chomón, qui sont des réalisateurs certes des bons techniciens, mais eux ils s'embêtaient pas, Pathé, ils refaisaient des films plan par plan. Ils ont même refait l'affaire Dreyfus de Méliès, ils l'ont refait pour Pathé comme ça plan par plan.
Parce que
dans les premiers temps du cinéma il n'y avait pas de copyright, les gens s'en foutent. Et c'est pour ça que tu disais qu'effectivement les films, pour se protéger contre la copie de bobine ou directement les remakes comme ça paresseux, tu le disais effectivement, que ce soit Pathé, que ce soit Gaumont, que ce soit la Starfilm, ils mettaient le logo de leur compagnie au centre de l'image. Donc parfois dans les films, dans le décor, sur une lampe ou sur un mur, il y a Starfilm ou au milieu.
Exactement.
Comme ça tu pouvais pas tu pouvais gratter, mais du coup c'était au milieu de l'image, c'était comme ça pour assurer que c'est bien un film de Gaumont.
C'est pour ça que effectivement les images de Gaumont, la Marguerite de Gaumont et le coq de Pathé, justement en fait c'est pour ça qu'ils sont autant entrés dans l'imagerie collective, c'est parce qu'en fait c'était dans les films,
c'était
tout
dans
simplement
les films directement au milieu, quoi.
C'est ça, c'est que là c'était pas juste les logos en début de film, là ils étaient dedans, donc forcément on se souvient qui est le coq et on se souvient qui est la Marguerite et qui est donc la Starfilm.
Bon, 1902, les premiers pirates du cinéma.
C'est ça.
Voilà qui conclut parfaitement, idéalement, notre épisode sur cette année 1902. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. On a évoqué les nouvelles ambitions du cinéma avec les productions scénarisées de chez Pathé, les Américains de leur côté. On a évidemment consacré une bonne partie de l'émission au plus grand rêveur de tous, l'essentiel Georges Méliès, son cinéma unique et le carton révolutionnaire de cette année 1902, Le Voyage dans la Lune, le premier film de science-fiction. On vient aussi donc de parler de Thomas Edison et de la décision cruciale de donner accès à tous au format 35 mm. Et on a parlé du coup des premiers pirates, des premiers plagiats de l'histoire du cinéma. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais à nouveau remercier mon invitée Mélanie Toubeau.
Merci
encore Mélanie d'être venue dans cette émission. Merci également aux partenaires, le magazine Cinéma Teaser et Tsugi Radio, qui nous accueillent ici dans le studio de la Villette à Paris. Je rappelle enfin qu'Année Lumière a désormais son Tipeee. Vous pouvez soutenir l'émission, même modestement, et vous pouvez le faire sur tipeee.com/AnneLumière. N'hésitez pas. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Votre soutien et vos retours me font toujours immensément plaisir. Bref, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel Année Lumière. Salut, salut.
Salut.